17h04 à Boulevard 102-1. C'est une journée riche en émotions aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Et c'est un nom qui était surveillé de près parce que c'est une histoire qui retient l'attention à de multiples niveaux. Dans les prochaines minutes, on va vous parler de Dominique Laroche, l'ex-skieur acrobatique qui est accusé d'agression sexuelle.
Ça faisait presque 4 ans qu'il avait été arrêté. On aurait dû aller en procès l'année passée. C'est finalement aujourd'hui que ça débutait, alors qu'il se défend de 6 chefs d'accusation à caractère sexuel sur une victime alléguée qui aurait eu 13 ans au début de ces gestes-là, des gestes qui auraient duré sur 10 ans.
C'était le témoignage de la victime qui débutait aujourd'hui et elle était présente. Judith Demeul, journaliste judiciaire du Soleil, qui est en studio avec nous. Salut Judith.
Allô.
C'était un témoignage aujourd'hui qui était très attendu.
Oui, puis c'est vraiment le genre de journée qui nous rappelle à quel point, j'ai beaucoup de respect et une immense admiration pour les plaignantes de des dossiers sexuels qui viennent témoigner à la cour.
Là, aujourd'hui, cette dame-là, elle a quel âge?
Elle a 30 ans.
Elle a 30 ans. Mmh. Puis elle est venue raconter ce qui lui est arrivé à partir de l'âge de 13.
Oui, puis le contexte est spécial. C'est vraiment dur à comprendre quand t'es pas dedans. Fait qu'elle a essayé de nous l'expliquer du mieux qu'elle a pu. Dans un témoignage comme ça, tu commences par le début.
Oui.
Tu viens de où, tu as grandi où, qu'est-ce qui t'a amené à 13 ans à rencontrer Dominique Laroche, en fait. Puis là, nous, elle nous a fait part là, que, bon, à 13 ans, petite crise identitaire, problème d'adolescence, puis à s'y retrouver. Puis si je suis vague, là, au niveau de la plaignante, c'est vraiment pour préserver son identité, parce qu'il y a beaucoup de détails qui quand tu comprends, on sait pour le lien entre elle et lui. Mais
son identité n'est pas publique.
Je n'ai pas là parce que, bref, elle était proche de la famille Laroche pour des circonstances qui vont rester là, non dites. Mm-hmm. Puis elle passait des séjours chez lui. De temps en temps, ça a commencé à l'hiver de ses 13 ans.
Puis lui qui a conjointe et enfant, là, fait qu'elle passait vraiment du temps avec la famille.
Oui, c'est vraiment la famille au complet. Elle était beaucoup plus proche des enfants de Dominique Laroche, qui étaient des bébés à ce moment-là qu'elle gardait, puis de la conjointe de Laroche.
Okay.
Puis éventuellement, tu sais, elle ne le connaissait pas beaucoup, là, pas plus que ça. Puis éventuellement, bon, ils se sont rapprochés, puis ça commence par des commentaires, des compliments. T'es belle. Puis après ça, on se rapproche tranquillement, les mains baladeuses, on s'en va en dessous du soutien-gorge, on s'en va dans les culottes. Donc là, elle raconte tout ça.
On parle d'une adolescente ici qui va pas bien, là, qui est en période difficile.
Exact. Puis c'est pas l'âge consentement, si on se rappelle. Puis à la fin de l'hiver, il y a eu le premier rapport sexuel. C'était sa première fois à elle. Elle n'avait pas d'autre expérience sexuelle. Puis lui, il se masturbait. Ben, elle raconte qu'il se masturbait devant la télé avec elle pendant que toute la famille était couchée à l'étage. Puis c'est là que le premier rapport sexuel, ça s'est passé plutôt rapidement. Elle a dit que c'était rapide, qu'après ça, ils se sont relevés, sont allés se coucher. Puis qu'à partir de ce moment-là, c'était un peu bizarre, la relation. Mais elle a avoué, puis c'est tellement dur d'avouer ça aujourd'hui, mais elle a avoué que ça lui avait fait un peu plaisir. Elle était contente de cette attention-là qu'on lui donnait. Il lui disait qu'elle était belle, qu'il appréciait être avec elle.
Étais-tu en amour avec Dominique Laroche?
Ben, l'amour est venu plus tard.
OK, parce que c'est arrivé, là.
Oui, parce qu'après cette fois-là, elle continuait à fréquenter la famille. Okay. Puis là, de plus en plus, à chaque fois qu'ils se voyaient, à chaque fois qu'ils étaient seuls ensemble, il y avait un rapprochement quelconque, un rapport sexuel. Okay. Puis éventuellement, puis ça, on en a parlé ensemble, vers 14 ou 15 ans, là, elle ne sait plus trop à quel âge ça a commencé, mais il l'a amené dans son bureau que la poursuite appelle la chambre du sexe de Dominique Laroche. C'était une chambre barrée à clé. C'était son bureau, en fait, avec on a vu des photos, avec un matelas qui était au sol.
OK.
Donc, elle raconte qu'il lui faisait regarder des films pornographiques, puis ensuite, il refaisait les scènes qu'ils regardaient ensemble. Puis, ils ont utilisé des jouets sexuels là, atypiques, je dirais.
Qu'est-ce que ça veut dire,
C'est pas ça que tu commandes sur Internet ou que tu achètes dans une boutique. C'est-tu bien expliqué?
Un peu. Ben, tu sais, ça a commencé, puis elle l'explique bien, ça a commencé avec des jouets là, plus connus. Là,
plus communs?
Plus commun, exact. Puis, éventuellement, il lui parle que lui, il a des préférences sexuelles différentes des autres. Là, rappelez-vous, là, elle connaît rien de la sexualité à l'extérieur de Dominique Laroche.
Mm.
Il lui dit, ouais, moi, mes préférences, c'est pas commun. Toutes mes conquêtes, ils veulent pas faire ça avec moi, mais toi, tu veux, toi, t'as du guts. C'est ça qu'il disait.
la force d'entrée spéciale.
T'as de l'audace. Mmh. Fait que toi, c'est cool, tu veux faire ça avec moi. Mmh. On rappelle, elle est une adolescente.
Ouais.
Fait que là, on sort des jeux qu'il lui avait fabriqués, là, on comprend. Là.
Ils avaient fait lui-même?
Oui,
okay.
C'est électrique, c'est ça. Puis si on va dans les préférences, sans aller trop dans les détails, c'était des préférences de pénétration anale. Fait que elle, c'est ça qu'elle connaissait de tout ça. Puis ça a duré jusqu'à ses 18 ans, un peu, tout le temps les hivers. Puis à partir de 18 ans, la vie, comme elle allait au cégep, elle était maintenant une adulte, elle avait une vie un petit peu plus remplie, fait qu'ils se voyaient moins, mais encore de temps en temps.
OK, dans le même genre de circonstances, exact. On va dire comme ça.
Puis, okay. Cette femme-là a raconté ça, là, tu sais, il y avait... Là, elle nous a dit que quand elle l'avait annoncé à des personnes, à ses amis, mm-hmm. puis elle disait qu'elle était... tomber en amour avec quelqu'un de sa famille, okay. qu'elle n'avait pas de lien avec, mais quelqu'un de proche de la famille, puis que c'était un très gros secret, qu'il ne fallait pas le dire, sinon ça allait détruire la famille. Donc, elle le présentait comme ça. Au début, elle ne le nommait pas, donc ses amis ne savaient pas trop qui c'était. Ils savaient qu'il était plus vieux, mais bon, elle aimait ça, elle en parlait comme quelque chose de positif. Et elle l'a avoué, puis ça prend tellement de courage et de... rétrospection, mais elle a avoué qu'elle trouvait ça cool dans le temps.
Ouais.
Quelqu'un
de plus vieux qui lui portait attention, oui. pour qui elle était spéciale, qui la valorisait.
Ça pensait qu'elle avait une relation cool.
Non, mais c'est de la manipulation, là. Je veux dire, c'est normal dans la tête d'une petite fille de 13 ans à l'époque, au départ, que tu aimes cette attention-là puis que tu as l'impression d'être aussi spéciale aux yeux de quelqu'un. Je veux dire,
absolument.
Tu ne cherches que ça comme adolescente.
De te démarquer.
De te démarquer puis d'être choisie.
C'est ce que la poursuite va plaider, là, on peut présumer. Il va dire qu'il y a eu manipulation, il y a eu abus d'autorité, abus de confiance, parce que même si cet homme-là n'était pas... peut-être pas juste une figure paternelle, mais il devait s'occuper d'elle à certains moments de sa vie alors qu'elle n'avait que le début de l'adolescence. Là. Puis... lui a utilisé ce rôle-là d'autorité auprès d'elle pour faire ses actes sexuels-là.
Comment cette relation-là s'est terminée?
Bien, c'est ça. Elle était en couple avec, mais lui continue à avoir sa conjointe. Il y a eu un enfant aussi, un troisième enfant pendant leur relation. Puis, elle a rencontré un garçon lorsqu'elle avait 25 ou 26 ans, puis qui est devenu son conjoint.
Mm.
Puis à ce conjoint-là, elle lui a parlé de Dominique Laroche parce qu'elle voulait être transparente. Elle lui a dit « C'est un homme avec qui c'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Il est encore important pour moi. J'ai des relations sexuelles avec lui depuis mon jeune âge. » Elle lui a tout dit. Puis ce conjoint-là était plus ou moins... ben il trouvait pas ça normal.
A
décidé de lui laisser une chance parce que c'était source de conflit entre les deux. Puis ils sont allés à un événement familial ensemble à un certain moment où Dominique Laroche était là, en 2020. Puis le conjoint de la plaignante avait une enfant, une jeune enfant de 10 ou 11 ans. Puis il l'a amenée à l'événement familial. Donc là, t'as la plaignante avec son nouveau chum, la fille de ce chum-là, puis toute la famille. Puis quand ils ont rencontré Dominique Laroche, il a flatté le dos de la jeune fille, de l'enfant, puis il lui a dit « Ah, t'es belle, c'est dommage que t'aies pas 18 ans. »
En bague. Ouch!
Puis ça a pas passé. Ça a été tout de suite non dans la tête du conjoint, puis...
il a vu un risque potentiel.
Oui, exact. Ouais. C'est pas normal de faire ce commentaire-là, mais en plus, sachant que tu couchais avec une fille de 13 ans il y a pas si longtemps, ça, il y a rien qui fonctionne. Donc lui, même si... à ce moment-là, il a confronté, bon, la plaignante. Puis elle comprenait que c'était pas correct. Elle savait que c'était pas normal, mais elle voulait continuer à garder le secret. Elle faisait une forme de déni, là. Elle voulait... Mm-hmm.
C'était quoi? C'est-tu
la
crainte
de détruire
la
famille? Ouais, parce que sinon, ça faisait une grosse explosion au sein de tout le monde. Puis elle voulait pas perdre les contacts avec les enfants, Dominique Laroche, la conjointe, ses parents.
Tu brises toute la bulle.
Tu brises tout.
Ouais.
Fait qu'elle a refusé, elle refusait, mais le conjoint de cette femme-là à l'époque a pas écouté ses restrictions et a lui-même communiqué avec la DPJ qui a lancé une certaine...
une enquête?
Mais ils ont lancé une enquête, eux, de leur côté, parce que là, il y avait des craintes pour les enfants, Dominique Laroche, dans le contexte. Puis la DPJ a essayé de la rejoindre pour avoir sa version des faits, pour en savoir plus là-dessus. Elle a refusé tous les appels de les rencontrer.
Hey, mon Dieu,
elle, je pense que le processus de réflexion s'est enclenché à ce moment-là pour elle. C'était beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Mm-hmm. Elle était très isolée.
Elle collaborait pas au début. Là.
Non, non, elle voulait rien savoir. Elle était pas prête.
Mais c'est parce que ta vie est un mensonge aussi, il faut le dire. Tu vis dans une bulle.
C'est qu'on, ouais, puis on te la pète. On te la pète solide, tu sais. Fait que c'est ça qu'elle a expliqué. Puis tranquillement, pas vite, elle a vu une vidéo là, d'une femme qui parlait de sa relation de manipulée, puis qu'elle avait vécu ça, elle, de l'adolescence à l'âge adulte. Fait qu'elle s'est vue dans cette femme-là qui a raconté son histoire, qu'elle a vue à la télé. Puis elle a dit, OK, je suis pas tout seule. T'sais. Fait que c'est ça qui lui a dit, bon, ben je vais tout avouer à ma famille, on va commencer par là. Puis de là, on a communiqué avec la DPJ puis la police. Puis...
Est-ce que Dominique Laroche nie en bloc tout ce récit-là?
On ne sait pas encore ce qu'il dit. On sait juste qu'il plaide non coupable.
Ouais.
Et on n'a pas encore su sa version des faits. On ne sait pas pourquoi il se défend. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire.
Il était là pendant le témoignage. Comment il se comporte? Comment il réagit?
Il est de marbre. Il ne réagit pas. Il reste attentif. Il gribouille beaucoup sur un cahier. Je pense qu'on lui a dit aussi de ne pas réagir. Je pense que ça fait partie des choses.
C'est comme ça qu'ils sont coachés, entre guillemets. Là.
Un peu.
Oui.
Puis, il n'y a eu aucun contact entre la plaignante et Dominique Laroche. Là. Comme je l'ai déjà dit, là, c'est tout arrangé pour qu'ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas. On fait sortir la plaignante avant que lui entre.
Okay.
Donc, il n'y a aucun contact. Puis, il n'a pas cherché à la regarder ou à lui faire des regards.
Est-ce qu'elle a cherché à... Non, plus.
Et puis, ça a été très difficile pour elle. Tu sais, elle a été courageuse. Elle a reculé devant aucune question. Elle a répondu à tout. Mais on sentait ça très difficile. Elle était stressée, elle tremblait un petit peu, puis elle pleurait.
Est-ce qu'elle a du support au palais de justice?
Tellement. Le chien d'assistance était là aujourd'hui. Ils ont des balles de stress là, pour jouer avec pendant leur témoignage. Il y a une représentante du CAVAC, les enquêteurs sont autour. Puis elle avait des membres de la famille avec elle. Là.
Est-ce que la famille de Dominique Laroche est sur place?
Non. Okay. J'ai pas vu qu'il était accompagné.
OK.
Puis la victime, elle parle, puis je trouve ça important de mentionner, tu sais, il y a pas... On sent que l'amour qu'elle portait pour lui était... Elle pensait que c'était vrai. Il n'y a pas d'amertume, elle n'est pas fâchée. Je ne dis pas qu'elle sent mal, mais on voit qu'elle n'aime pas ça, être là pour... J'ai l'impression toutes les raisons.
Ben c'est comme si son elle adulte jugeait son elle enfant, lorsqu'il y avait une naïveté. Là, c'est ça, exact. Oui.
Puis, fait que ça, c'est tout à son honneur. Puis, tu le vois que c'est que elle vient raconter son histoire, puis elle n'a pas changé sa version adolescente. Tu sais, quand elle était adolescente, elle nous a dit qu'elle l'aimait, puis elle l'idolâtrait. C'était un homme connu du milieu du ski,
ben
il avait une belle réputation. Puis, elle avait encore tous ces beaux mots pour lui. Là. Elle n'a jamais dit « Ah, mais j'y suis après. »
C'est pas quelqu'un en vengeance?
Non,
ou
pas du tout, vraiment pas. Puis, ça fait la différence entre des bons témoins et des mauvais témoins.
Est-ce qu'elle va être contre-interrogée plus tard cette semaine? Demain?
Demain. Okay. Là, son témoignage a été fini aujourd'hui. Plus rapide que prévu, ça a très bien été. On avait prévu des fois des pauses parce que les plaignants trouvent ça dur, donc ils veulent arrêter puis pour reprendre leurs esprits. Mais elle n'a pas eu besoin. Là. Elle a clenché ça, puis vraiment à regarder en avant. Puis,
Fait que toi, tu retournes là demain?
Je retourne là demain.
Oui. Hey, si jamais il y a des trucs supplémentaires, j'irais peut-être pas ça qu'on se reparle cette semaine. C'est quand même un gros procès. Là. Puis il y a quand même des choses qui font de ce procès-là un procès unique.
Puis, on dirait que je suis curieuse aussi de voir comment... bien, que tu me décrives comment ça se passe, un contre-interrogatoire dans ce genre de situation-là.
Ah, pas toujours agréable. Loin de là.
Puis on va avoir une idée de quelle est sa défense à lui à ce moment-ci.
Quel angle ils vont vouloir donner.
Exact. Sur où est-ce qu'on contre-interroge et tout.
Je veux qu'on change complètement de sujet parce que il y a une histoire surréaliste présentement au Palais de justice de Québec.
Très rare.
Concernant un homme qui aurait tenté un coup d'État. Puis là, c'est pas un clown qui a parti l'armée révolutionnaire indépendante du Québec dans le bois. Là. C'est pas ça. Là. Lui, c'est complètement autre chose.
Oui. C'est Gérald Nicolas, c'est un gars de Lévis, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais ça avait fait les manchettes quand il était arrêté en 2022. Puis il est accusé de terrorisme pour avoir planifié un coup d'État contre le gouvernement haïtien.
C'est absolument capoté, cette histoire-là.
Vraiment.
Puis, je me souviens quand c'est arrivé, on était...
C'est réel.
Quand
c'est
on avait reçu le communiqué parlant de l'arrestation, on est comme, mais voyons, il nous manque des éléments à travers tout ça, alors que... c'était pas juste une lubie sur Facebook. Là. Il y a des affaires tangibles qui ont mené à son arrestation.
Dans les forums, là, assez profond. Là. Puis, c'est ça, en ouverture de procès, parce que là, aujourd'hui, c'est un procès devant jury. Donc, là, ça grouillait au palais de justice parce qu'on choisissait le jury. Donc, une centaine de personnes qui sont appelées. Puis, le jury a été trouvé en fin d'avant-midi. Donc, on a pu commencer en après-midi. Puis, l'ouverture, l'avocat, il dit au jury, je vous parle pas de bombe, je vous parle pas de balle, je vous parle pas de guerre, je vous parle de planification. Mm-hmm. Puis c'est là que c'est important. Puis il y a beaucoup de preuves qui avaient sorti là-dedans, après son arrestation. T'sais, il y avait eu des locations en République dominicaine, mm-hmm. qui est voisin d'Haïti. Il essayait de recruter des membres pour joindre sa cause. Il avait écrit une lettre à Kim Jong-un.
Bon.
Corée du Nord, puis c'était sérieux. Là. Il avait écrit à Kamala Harris, qui était une femme noire des États-Unis, qui l'invitait à rejoindre son mouvement en tant que femme noire d'un pays puissant. Puis, à ce jour, Gérald Nicolas nie tout ça en disant que c'est absurde, que c'est pas ça qu'il voulait faire, c'est pas un tueur, on est tous racistes pour croire la version de la poursuite. Ah. Puis qu'il a été... c'est un malentendu, il a été... les gens l'ont...
Mal interprété, peut-être?
Les gens lui ont tendu un piège.
Ah, OK, d'accord.
On n'a tout pas compris.
Par racisme. Ouais, ça voilà. Doit être ça. OK, oui, oui.
Tu sais, c'est un peu... Mais j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler parce que là, on a commencé son interrogatoire policier où il se fait interroger par la police une première fois puis on voit qu'il est très sur la défensive. Là. Il dit qu'il faut qu'on se réveille, que c'est nous qui ne comprennent pas puis qu'on doit sauver le peuple haïtien. Puis on est vraiment dans une...
Il est déconnecté, là.
Ben moi, je dirais pas ça, mais si
moi, je le fais, je l'assume. J'y ai déconnecté.
Puis en même temps, ça peut devenir un facteur dans son procès, j'imagine, là, de son état de santé mentale puis son degré de conscience.
Oui. De lien avec comment il allait, comment il se comportait puis comment il allait quand il a fait ces actions-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de preuves parce qu'on a fait une perquisition chez lui puis c'est de là qu'on a découvert tout ce qu'il avait préparé. Là.
Des journées plus tranquilles que ça au palais de justice, hein? Oui. Tabarnouche. Hey, Judith Desmolles, merci beaucoup.
Merci. On se revoit bientôt.
Vous pouvez lire Judith sur tous ces dossiers-là et même d'autres. Là, quand je vous dis que ça a été une grosse journée, là, sur lesoleil.com, évidemment. Judith qui couvre les activités du Palais de justice de Québec pour le journal Le Soleil. Est-ce que je comprends qu'il y a des choses à signaler majeures dans la circulation présentement?
En raison d'un bris d'équipement, la 20 hauteur du kilomètre 316 près de la sortie Taniata, direction Est, est fermée brièvement. Il y a un texto qui est entré tantôt, en fait, c'est qu'il y aurait un véhicule lourd qui aurait ramassé la pancarte.
Le poteau de pancarte, là, sorti Taniata.
Fait que le poteau de pancarte, vous comprendrez, a penché par en avant, slash plié, puis c'est très dangereux. Fait que pour l'instant, ce tronçon-là, du moins, est fermé. Autrement, il y a encore quelques problèmes, je vous dirais, direction est sur la capitale, à la hauteur de Robert Bourassa. Puis autrement, le trafic, c'est vraiment à la hauteur de Taniata dans ce coin-là. Le reste, c'est pas mal beau à cette heure-ci.
418-971-1021, s'il y a quoi que ce soit d'autre. À signaler, on a moins 14. On est sous les nuages pour la première moitié de la semaine. Le soleil se pointe à partir de jeudi. Demain, c'est moins 12 et cette nuit, c'est moins 18. On écoute les Red Hot.